RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Charlotte de Rouen.
Et à la une, le Tchad où les candidats ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur dossier de candidature aux élections législatives et locales. Mais pour l'instant, il y a toujours très peu de prétendants malgré deux prolongations successives de la date limite. Le pouvoir veut mettre la pression sur l'opposition au Cameroun. Voilà ce que dénonce le FCC de Jean-Michel Ninthieu, dont le domicile a été encerclé par les forces de l'ordre hier. Si la situation reste tendue dans l'est de la RDC, les experts congolais et rwandais se sont réunis à Luanda pour tenter de faire avancer le processus de paix, une proposition qui vise la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. Mais ce plan devra encore être validé par Kinshasa et Kigali. Cet échec dans les négociations à la COP16 biodiversité à Cali en Colombie, les pays du Sud réclamaient la mise en place d'un fonds dédié à la biodiversité, mais aucun consensus n'a été trouvé. Le négociateur en chef congolais dénonce le blocage des pays occidentaux. Alors que les rendez-vous mondiaux s'enchaînent, les populations se plaignent de ne pas voir de changement sur le terrain. Hier, les femmes se sont mobilisées à Dakar, une manifestation pour dénoncer l'inaction climatique des autorités. Après deux prolongations au Tchad, les candidats aux élections législatives et locales ont jusqu'à ce soir, minuit, pour déposer leur dossier de candidature. Les scrutins doivent avoir lieu le 29 décembre prochain, mais ils suscitent peu d'engouement, Carole Valade.
Ce faible engouement s'explique notamment par le montant de la caution par candidat. Pour déposer une liste au communal, par exemple, 18 sièges, un parti doit débourser 3 600 000 francs, soit environ 5 500 euros, alors que la subvention au parti récemment débloquée par le président s'élève à 3 millions, soit environ 4 500 euros. Tahir Hassan, rapporteur général de l'Agence nationale de gestion des élections.
Que ce soit les élections locales, communales et provinciales, et que ce soit les élections législatives, nous avons enregistré des candidatures. Dans toutes les circonscriptions du pays, il y a au moins un parti politique qui a positionné ses candidats.
La société civile craint que seul le MPS, principal soutien du président, soit en mesure d'assurer financièrement une présence sur l'ensemble du territoire. Kombo Ouzibé, rapporteur général de l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad.
On va se retrouver dans cette configuration-là. Dans la plupart des circonscriptions où il y a des sièges abrigés, il y aura le MPS seul, sans adversaire en face. Et donc, ça perdra le goût et la couleur d'une élection parfaite.
Les candidatures indépendantes sont finalement interdites. Le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra a choisi de boycotter ces scrutins, de même que l'opposition dite radicale réunie au sein du GCAP. Carole Valade, Djamena, RFI.
Au Cameroun, les forces de l'ordre ont encerclé hier le domicile de l'opposant Jean-Michel Ninthieu. Selon son parti, des gendarmes et des policiers de l'unité antiterroriste se sont positionnés dès l'aube tout autour de chez lui. Le président national du Front pour le changement du Cameroun devait y tenir une réunion du comité directeur national. Un événement qui intervient une dizaine de jours après le retour au pays du président Paul Biya. Son absence de presque 2 mois avait fait couler beaucoup d'encre sur l'état de santé du chef de l'État de 92 ans. Pour Jean-Robert Wafo, le secrétaire national à la communication du FCC, il ne fait aucun doute que le pouvoir veut mettre la pression sur l'opposition.
On a l'impression que le gouvernement de la République, du moins de certains acteurs dans le CERAI, sont devenus fébriles au fur et à mesure que le grand soir s'approche. Le grand soir, c'est quoi? C'est l'après-Biya. Et on a l'impression qu'ils font tout pour, n'est-ce pas, museler les acteurs politiques qui comptent. C'est-à-dire que ce n'est plus un secret. Tout le monde sait bien que presque chaque membre du CERAI, pour la plupart, ils sont en train de tout faire pour s'armer dans la perspective du grand soir qui risque d'être extrêmement brutal et violent si rien n'est fait. Dans l'urgence, le FCC ne va pas baisser les bras. Le FCC va continuer à mener ses activités. Et je tiens à préciser que malgré cette intimidation, le FCC a pu tenir, n'est-ce pas, sa réunion et plusieurs points ont été débattus. Nous resterons droit debout pour défendre les intérêts de l'immense majorité du peuple camerounais conformément aux textes qui existent.
Des propos recueillis par Sidi Yansane. Au moins 12 morts dans l'ouest du Soudan, au nord de la ville de Koutoum. 5 personnes ont été également blessées dans cette attaque. Des FSR qui ont aussi incendié une vingtaine de villages dans la même région. Dans l'est de la RDC, le M23, les rebelles soutenus par Kigali ont gagné du terrain ces derniers jours. La situation reste tendue autour de Pinga dans le territoire de Walikale. Calais, au nord Kivu. Mais parallèlement, pour tenter de faire avancer le processus de paix, les experts congolais et rwandais se sont réunis jeudi à Luanda sous l'égide des médiateurs angolais. Un optimisme prudent semble de mise, Patient Ligaudy.
Les experts congolais et rwandais spécialisés dans les questions de défense ont reçu de la facilitation une proposition de concept des opérations. Ce document stratégique prend en compte les points de vue des deux parties sur leurs engagements respectifs. Après analyse, ces délégués ont adopté par consensus le document qualifié d'important pour l'opérationnalisation du plan harmonisé. Ces plans visent la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. Une avancée majeure, mais attention, tout n'est pas encore joué. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent encore approuver le document. La prochaine session ministérielle est prévue le 16 novembre à Luanda. Cependant, la facilitation reste prudente. Par le passé, des documents adoptés par les experts des deux parties ont été rejetés en session ministérielle en raison d'interprétations divergentes. Par exemple, Kinshasa entend par lever des mesures défensives le retrait des soldats rwandais du territoire congolais, une présence que Kigali continue de nier. Parmi les avancées notables, les experts ont validé la composition tripartite du MVAR, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. C'est ce mécanisme qui sera chargé de vérifier la véracité des accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Ce mécanisme, dirigé par l'Angola, intègre des officiers de liaison de la RDC et du Rwanda. Patient Ligaudy, Kinshasa, RFI.
Le négociateur congolais à la COP16 biodiversité se dit très déçu de l'échec des discussions. Malgré une nuit supplémentaire de négociations, le grand accord sur le financement de la protection du vivant n'a pas été trouvé. À Cali, en Colombie, les pays africains et le Brésil avaient pourtant réclamé la mise en place d'un fonds dédié à la biodiversité. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Après avoir négocié toute la nuit dernière jusqu'au matin, la présidente colombienne de la COP a constaté avoir perdu le quorum de délégués requis partis attraper leur avion après une nuit blanche. Le négociateur en chef de la RDC, donc Nikki Kingunya, dénonce le manque de volonté politique des pays industrialisés.
Les documents contenaient nos revendications. Il y avait bien sûr marqué la création d'un fonds tel que nous l'avons sollicité, qui soit sous l'autorité et le contrôle de la COP. C'était un document de compromis qui avait été produit. Donc pour nous, on savait que comme c'est un document de compromis, tout le monde a été consulté. Donc pour nous, on pensait qu'on allait directement l'adopter puisque tout le monde a été consulté. Mais nous avons été surpris de voir que les autres voulaient encore qu'on leur donne des temps, tout ça. En dernière minute, ils n'ont pas voulu adopter les documents. Ce qui prouve effectivement qu'ils n'étaient pas d'accord malgré les consultations qu'on a faites. Ça montre déjà de la mauvaise foi. Malheureusement, le document n'a pas été adopté.
Qui, en fait, parmi les pays industrialisés, selon vous, a le plus bloqué?
Bon, on sait que généralement, c'est l'Union européenne qui ne veulent pas de ces ponts-là. Mais bon, c'est ça les négociations. Nous sommes toujours persévérés et nous allons persévérer pour qu'on puisse pouvoir obtenir ce que nous voulons.
Le négociateur en chef de la RDC, joint par Stéphanie Schuller pour RFI. La clôture des travaux de cette COP est donc reportée à une date ultérieure. Cette bataille financière nord-sud devrait reprendre dans une semaine, le 11 novembre, dans l'autre COP, celle sur le climat en Azerbaïdjan. Et le rendez-vous portera sur des montants 10 fois plus élevés pour financer des mesures cette fois plus globales pour protéger notre planète. Les grands événements autour de l'environnement s'enchaînent en ce moment, mais les populations, elles, se plaignent de ne rien voir changer. Des populations qui souffrent pourtant des conséquences du changement climatique, sécheresse, inondations, records de chaleur. Au Sénégal, les femmes sont en première ligne et elles organisaient hier la 4e édition de la Marche des Femmes pour le Climat à Dakar. Reportage de Gwendal Lavigne.
Leur slogan se font difficilement entendre au milieu de la circulation. Elles sont pourtant une centaine de femmes à s'être donné rendez-vous pour réclamer la fin de l'inaction climatique. Après la COP biodiversité et avant la COP sur les changements climatiques, Chernia Faye, venue de Mbour, ne cache pas sa colère.
Il y a des discussions mais rien ne change. C'est comme un avion qui est prêt à décoller, qui est toujours sur la piste et qui ne décolle jamais. Ils dépensent des milliards pour faire des discours et laisser les pays impactés par le réchauffement climatique.
Elle réclame notamment le versement des fonds sur les pertes et préjudices actés lors de la COP28 l'an dernier.
Les femmes, nous, on a plein de projets, mais on n'a pas accès au financement. Alors, si nous dédommager, on va faire beaucoup de réparations parce qu'il y a beaucoup de dégâts.
Radi Faye est présidente de l'association Femmes Développement et Protection de l'Environnement de Soum, à 130 km de la capitale. Elle est venue chercher du soutien.
La commune de Soum compte plus de 2000 habitants. Mais en 2015, on a vu que l'eau a été salinisée. On ne comprend pas ce qui se passe. Et jusqu'à présent, l'État n'a rien fait. On est abandonné par les dirigeants.
S'entraider entre femmes, une nécessité, car ce sont elles qui ont les solutions, insiste Meram Si, membre de Jeunes Volontaires pour l'Environnement.
Il faut qu'elles montrent aujourd'hui, elles construisent des communautés très résilientes, qu'elles ont des solutions qui peuvent changer les choses. Donc pour cela, il faut qu'on élève leur voix, on puisse les écouter.
Et justement, elles promettent de continuer à se mobiliser pour se faire entendre. Wendel Lavina, Dakar, RFI.
Et comment montrer l'urgence climatique à l'écran? Comment la filmer? C'est la question à laquelle a tenté de répondre au Ghana le Green Film Festival, un événement qui a tenu sa première édition en octobre avec au programme des diffusions de documentaires sur les enjeux environnementaux, mais aussi des masterclass pour apprendre à réaliser ses propres films. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la transition a adopté une loi pénalisant l'homosexualité au Mali. Aucune sanction pénale n'était en vigueur jusqu'à présent contre l'homosexualité, mais depuis jeudi, ce n'est plus le cas. Toute personne s'adonnant à la pratique de l'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie sera poursuivie. Voilà ce qu'a indiqué le ministre malien de la Justice dans une déclaration à la presse. Mais les détails exacts des peines ne sont pas encore connus. En Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s'élève au rang de général d'armée pour la deuxième fois cette année. Le chef de la junte s'est autopromu par un décret présidentiel rendu public vendredi soir. Une quinzaine de membres de la junte et de l'armée ont également été élevés au grade de général. Restez avec nous à l'écoute de RFI. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquelle-Rohem.